Poésie en Pays de Savoie.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. C'est avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui Rosine Thébert, qui va nous parler des fables de La Fontaine. Bonjour Rosine.
Bonjour Jean-Paul.
Jean de La Fontaine naît le 8 juillet 1621 et meurt le 13 avril 1695. L'auteur des fables qui a fait triompher le genre à travers les siècles, au point de faire oublier Ésope, est également l'auteur des contes jugés à l'époque et interdits pour libertinage. Il est également l'auteur d'Adonis et Les Amours de Psyché et de Cupidon. Des animaux pour instruire les hommes sur eux-mêmes. Cette prodigieuse entreprise lui valut succès, mais aussi disgrâce. Ces maximes ont traversé l'histoire et leur morale n'a pas toujours emporté l'éloge des grands. Alors qu'il est avocat au Parlement de Paris en 1847, il épouse Marie Écart, qui est âgée de 15 ans. Il aura un fils Charles et se sépare de Marie en 1660. Auparavant, en 1652, il devient maître triennal des eaux et forêts du duché de Château-Thierry. En 1661, le bannissement de Fouquet, qu'il défend, lui vaut de courir le risque d'une disgrâce auprès de Louis XIV. Il se fera constamment protéger par les favorites du roi, le seul problème étant de savoir qui est la dernière. Ses morales sont à comprendre comme intemporelles, mais également comme de nombreuses allusions au contexte de l'époque, et en particulier le pouvoir absolu de Louis XIV. Pour Jean de La Fontaine, il s'agissait moins de fustiger les défauts des hommes que de les inviter à rejoindre la vie. Ainsi, nous allons, avec Rosine, vous proposer un petit florilège de ses poésies allégoriques.
Le loup et l'agneau.
La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure.
Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survient à jeun qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait.
Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ? Dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité.
Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant plus de 20 pas au-dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson.
Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi tu médis l'an passé.
Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas née ? Reprit l'agneau. Je tète encore ma mère.
Si ce n'est toi, c'est donc ton frère.
Je n'en ai point.
C'est donc quelqu'un des tiens, car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge.
Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. Le chêne et le roseau. Le chêne un jour dit au roseau. Vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roitelet pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front, au Caucase pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est aquilon. Tout me semble zéphyr. Encore, si vous naissiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir. Je vous défendrais de l'orage. Mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel. Mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résisté sans courber le dos. Mais attendons la fin. Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants que le Nord eût porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon. Le roseau plie. Le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient à l'empire des morts.
L'enfant est le maître d'école. Dans ce récit, je prétends faire voir d'un certain sceau la remontrance vaine. Un jeune enfant, dans l'eau, se laisse achoir en badinant sur les bords de la Seine. Le ciel permit qu'un saule se trouvât, dont le branchage après Dieu le sauva. S'étant pris, dis-je, aux branches de ce saule, par cet endroit passe un maître d'école. L'enfant lui crie « Au secours, je péris !» Le magistère, se tournant à ses cris d'un ton fort grave, à contre-temps, s'avise de le tancer. « Ah, le petit babouin ! Voyez, dit-il, où l'a mis sa sottise ! Et puis, prenez de tels fripons le soin ! Que les parents sont malheureux qu'il faille toujours veiller à semblable canaille, qu'ils ont de maux et que je plains leur sort !» Ayant tout dit, il mit l'enfant à bord. Je blâme ici plus de gens qu'on ne pense. Tout babillard, tout censeur, tout pédant se peut connaître au discours que j'avance. Chacun des trois fait un peuple fort grand. Le Créateur en a béni l'engeance. En toute affaire, ils ne font que songer aux moyens d'exercer leur langue. Hé, mon ami, tire-moi de danger. Tu feras après ta harangue.
Come ti inganni se pensi che gli anni non andano a finire, bisogna morire, bisogna morire. È un sogno la vita che passi gradita, è breve il gioire, bisogna morire. Non val medicina, non giova la china, non si può guarire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. Non voglion sberate minarie bravate che caia l'ardire, bisogna morire. Dottrina che giova, parola non trova, che plachi l'ardire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. Non si trova modo di sciogliere il suo nodo, non vale fuggire, bisogna morire. Comune il statuto, non vale l'astuto, sto colpo a schermire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. La morte crudele a tutti è infedele, ognuno svergogna, morire bisogna. È pura pazzia o gran frenesia, partirsi menzogna, morire bisogna, morire bisogna, morire bisogna. Si muore cantando, si muore suonando, da cedra o zampogna, morire bisogna. Si muore danzando, bevendo, mangiando, con quella carogna, morire bisogna, morire bisogna, morire bisogna. I giovani tutti e gli uomini tutti sanno incenerire, bisogna morire. I sani, gli infermi, i bravi, gli inermi, tutt'anno a finire, bisogna morire. E quando che meno ti pensi nel seno, ti viene a finire, bisogna morire. Se tu non vi pensi, hai persi i sensi, sei morto e puoi dire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire.
morire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire.
La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf.
Une grenouille vit un bœuf, qui lui sembla de belle taille. Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse, s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur.
Disant, regardez bien ma sœur, est-ce assez? Dites-moi, n'y suis-je point encore?
Nenni.
M'y voici donc?
Point du tout.
M'y voilà?
Vous n'en approchez point.
La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva.
Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages.
Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs.
Tout petit prince a des ambassadeurs.
Tout marquis veut avoir des pages. Le petit poisson est le pêcheur. Petit poisson deviendra grand, pourvu que Dieu lui prête vie. Mais le lâcher en attendant, je tiens pour moi que c'est folie. Car de le rattraper, il n'est pas trop certain. Un carpeau, qui n'était encore que fretin, fut pris par un pêcheur au bord d'une rivière. « Tout fait nombre, dit l'homme, en voyant son butin. Voilà commencement de chair et de festin. Mettons-le en notre gibecière. » Le pauvre carpillon lui dit en sa manière, « Que ferez-vous de moi? Je ne saurais fournir au plus qu'une demi-bouchée. Laissez-moi carpe devenir. Je serai par vous repêché. Quelque gros partisan m'achètera bien cher. » Au lieu qu'il vous en faut chercher peut-être encore 100 de ma taille. Pour faire un plat? Quel plat? Croyez-moi, rien qui vaille. Rien qui vaille? Eh bien, soit, reprit le pêcheur. Poisson, mon bel ami, qui faites le prêcheur, vous irez dans la poêle, et vous aurez beau dire, dès ce soir, on vous fera frire. Un tien, vous, se dit-on, mieux que deux tu l'auras. L'un est sûr, l'autre ne l'est pas.
À celui qui aimait tant les fables de La Fontaine. Il nous avait appris ce qu'était le rire du loup et l'espérance de l'agneau, qu'il était plus tortue que lièvre, mais qu'un vieux chêne n'a pas forcément envie d'être roseau, qu'il valait mieux éviter les corbeaux et les renards, qu'on pouvait être fier d'être rat des champs, et qu'enfin, il y avait de silencieuses cigales qui valaient mieux qu'une fourmilière. Voilà ce que disait celui qui aimait tant les fables de La Fontaine. C'était mon père, Jean-Paul Clairet.
Chères auditrices, chers auditeurs, merci de votre écoute. J'espère que vous avez apprécié ce moment avec Jean de La Fontaine. Merci à Fabrice Henriot pour sa bienveillance et sa gentillesse. Merci à Jean-Paul et une pensée particulière pour nos jeunes lycéens qui sont sans doute en train de préparer le bac de français. À bientôt.